Qu'y a-t-il de nouveau ? S'écrièrent les femmes.
C'est une bassesse et une honte, répondirent-ils, de tuer un pauvre vieillard endormi. Ah, la pitié nous a empêchés d'agir.
En entendant cette excuse, Béatrix fut saisie d'indignation et commença à les injurier, disant « Donc, vous autres hommes, bien préparés à une telle action, vous n'avez pas le courage de tuer un homme qui dort ? Bien moins encore oseriez-vous le regarder en face s'il était éveillé. Et c'est pour en finir ainsi que vous osez prendre de l'argent ? Eh bien, puisque votre lâcheté le veut, moi-même, je tuerai mon père, et quant à vous autres, vous ne vivrez pas longtemps. » Animé par ce peu de paroles fulminantes et craignant quelque diminution dans le prix convenu, les assassins rentrèrent résolument dans la chambre et furent suivis par les femmes. L'un d'eux avait un grand clou qu'il posa verticalement sur l'œil du vieillard endormi, l'autre, qui avait un marteau, lui fit entrer dans la tête. On fit entrer de cette même façon un autre grand clou dans la gorge, de façon que cette pauvre âme, chargée de tant de péchés récents, fut enlevée par les diables, et le corps se débattit, mais en vain. La chose faite, le jeune homme donna à Olympio une grosse bourse remplie d'argent. Elle donna à Marzio un manteau de drap garni d'un galon d'or, qui avait appartenu à son père, et elle les renvoya. Les femmes, restées seules, commencèrent par retirer ce grand clou enfoncé dans la tête du cadavre et celui qui était dans le cou. Ensuite, ayant enveloppé le corps dans un drap de lit, elles le traînèrent à travers une longue suite de chambres jusqu'à une galerie qui donnait sur un petit jardin abandonné. De là, elles jetèrent le corps sur un grand sureau qui croissait en ce lieu solitaire. Comme il y avait des lieux à l'extrémité de cette petite galerie, elles espérèrent que, lorsque le lendemain on trouverait le corps du vieillard tombé dans les branches du sureau, on supposerait que le pied lui avait glissé et qu'il était tombé en allant au lieu. La chose arriva précisément comme elle l'avait prévu. Le matin, lorsqu'on trouva le cadavre, il s'éleva une grande rumeur dans la forteresse. Elles ne manquèrent pas de jeter de grands cris et de pleurer la mort si malheureuse d'un père et d'un époux. Mais la jeune Béatrix avait le courage de la pudeur offensée, et non la prudence nécessaire dans la vie. Dès le grand matin, elle avait donné à une femme qui blanchissait le linge dans la forteresse un drap taché de sang, parce que toute la nuit elle avait souffert d'une grande perte, de façon que pour le moment, tout se passa bien. On donna une sépulture honorable à François Cenci, et les femmes revinrent à Rome jouir de cette tranquillité qu'elles avaient désirée en vain depuis si longtemps. Elles se croyaient heureuses à jamais, parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait à Naples. La justice de Dieu, qui ne voulait pas qu'un parricide si atroce restât sans punition, fit qu'aussitôt qu'on apprit dans cette capitale ce qui s'était passé dans la forteresse de la Petrella, le principal juge eut des doutes et envoya un commissaire royal pour visiter le corps et faire arrêter les gens soupçonnés. Le commissaire royal fit arrêter tout ce qui habitait dans la forteresse. Tout ce monde fut conduit à Naples, enchaîné, et rien ne parut suspect dans les dépositions, si ce n'est que la blanchisseuse dit avoir reçu de Béatrix un drap ou des draps ensanglantés. On lui demanda si Béatrix avait cherché à expliquer ses grandes taches de sang. Elle répondit que Béatrix avait parlé d'une indisposition naturelle. On lui demanda si des taches de telle grandeur pouvaient provenir d'une telle indisposition. Elle répondit que non, que les taches sur le drap étaient d'un rouge trop vif. On envoya sur le champ ce renseignement à la justice de Rome, et cependant il se passa plusieurs mois avant que l'on songeât parmi nous à faire arrêter les enfants de François Cenci. Lucrèce, Béatrix et Giacomo eussent pu mille fois se sauver, soit en allant à Florence, sous le prétexte de quelques pèlerinages, soit en s'embarquant à Civitavecchia, mais Dieu leur refusa cette inspiration salutaire. Monsignor Guerra, ayant eu avis de ce qui se passait à Naples, mit sur le champ en campagne des hommes qu'il chargea de tuer Marzio et Olimpio. Mais le seul Olimpio put être tué à Terni. La justice napolitaine avait fait arrêter Marzio, qui fut conduit à Naples, où, sur le champ, il avoua toute chose. Cette déposition terrible fut aussitôt envoyée à la justice de Rome, laquelle se détermina enfin à faire arrêter et conduire à la prison de Corte Savella Jacques et Bernard Cenci, les seuls fils survivants de François, ainsi que Lucrèce, sa veuve. Béatrix fut gardée dans le palais de son père par une grosse troupe de sbires. Marzio fut amené de Naples et placé lui aussi dans la prison Savella. Là, on le confronta aux deux femmes qui nièrent toutes avec constance, et Béatrix en particulier ne voulut jamais reconnaître le manteau galonné qu'elle avait donné à Marzio. Celui-ci, pénétré d'enthousiasme pour l'admirable beauté et l'éloquence étonnante de la jeune fille, répondant au juge, nia tout ce qu'il avait avoué à Naples. On le mit à la question, il n'avoua rien et préféra mourir dans les tourments. Juste hommage à la beauté de Béatrix. Après la mort de cet homme, le corps du délit n'étant point prouvé, les juges ne trouvèrent pas qu'il y eut raison suffisante pour mettre à la torture soit les deux fils de Cenci, soit les deux femmes. On les conduisit tous quatre au château Saint-Ange, où ils passèrent plusieurs mois fort tranquillement. Tout semblait terminé, et personne ne doutait plus dans Rome que cette jeune fille si belle, si courageuse, et qui avait inspiré un si vif intérêt, ne fut bientôt mise en liberté lorsque, par malheur, la justice vint à arrêter le brigand qui, à Terni, avait tué Olimpio. Conduit à Rome, cet homme avoua tout. Monsignor Guerra, si étrangement compromis par l'aveu du brigand, fut cité à comparaître sous le moindre délai. La prison était certaine et probablement la mort. Mais cet homme admirable, à qui la destinée avait donné de savoir bien faire toutes choses, parvint à se sauver d'une façon qui tient du miracle. Il passait pour le plus bel homme de la cour du pape, et il était trop connu dans Rome pour pouvoir espérer de se sauver. D'ailleurs, on faisait bonne garde aux portes, et probablement, dès le moment de la citation, sa maison avait été surveillée. Il faut savoir qu'il était fort grand. Il avait le visage d'une blancheur parfaite, une belle barbe blonde et des cheveux admirables de la même couleur. Avec une rapidité inconcevable, il gagna un marchand de charbon, prit ses habits, se fit raser la tête et la barbe, se teignit le visage, acheta deux ânes et se mit à courir les rues de Rome et à vendre du charbon en boitant. Il prit admirablement un certain air grossier et hébété et allait criant partout son charbon avec la bouche pleine de pain et d'oignons, tandis que des centaines de sbires le cherchaient non seulement dans Rome, mais encore sur toutes les routes. Enfin, quand sa figure fut bien connue de la plupart des sbires, il osa sortir de Rome, chassant toujours devant lui ses deux ânes chargés de charbon. Il rencontra plusieurs troupes de sbires qui n'eurent garde de l'arrêter. Depuis, on n'a jamais reçu de lui qu'une seule lettre. Sa mère lui a envoyé de l'argent à Marseille et on suppose qu'il fait la guerre en France comme soldat. La confession de l'assassin de Terni et cette fuite de Monsignor Guerra qui produisit une sensation étonnante dans Rome, ranimèrent tellement les soupçons et même les indices contre les Cenci qu'ils furent extraits du château Saint-Ange et ramenés à la prison Savella. Les deux frères, mis à la torture, furent bien loin d'imiter la grandeur d'âme du brigand Marzio. Ils eurent la pusillanimité de tout avouer. La signora Lucrèce Petroni était tellement accoutumée à la mollesse et aux aisances du plus grand luxe, et d'ailleurs elle était d'une taille tellement forte, qu'elle ne put supporter la question de la corde, et elle dit tout ce qu'elle savait. Mais il n'en fut pas de même de Beatrice Cenci, jeune fille pleine de vivacité et de courage. Les bonnes paroles ni les menaces du juge Moscati n'y firent rien. Elle supporta les tourments de la corde sans un moment d'altération et avec un courage parfait. Jamais le juge ne put l'induire à une réponse qui la compromit le moins du monde, et bien plus. Par sa vivacité pleine d'esprit, elle confondit complètement ce célèbre Ulysse Moscati, juge chargé de l'interroger. Il fut tellement étonné des façons d'agir de cette jeune fille qu'il crut devoir faire rapport du tout à sa sainteté le pape Clément VIII, heureusement régnant. Sa sainteté voulut voir les pièces du procès et l'étudier. Elle craignit que le juge Ulysse Moscati, si célèbre pour sa profonde science et la sagacité si supérieure de son esprit, n'eût été vaincu par la beauté de Béatrix et ne la ménagea dans les interrogatoires. Il suivit de là que sa sainteté lui ôta la direction de ce procès et la donna à un autre juge plus sévère. En effet, ce barbare eut le courage de tourmenter sans pitié un si beau corps « ad torturam capiorum », c'est-à-dire qu'on donna la question à Beatrice Cenci en la suspendant par les cheveux. Pendant qu'elle était attachée à la corde, ce nouveau juge fit paraître devant Béatrix sa belle-mère et ses frères. Aussitôt que Giacomo et la signora Lucrèce la virent, « Le péché est commis !» lui crièrent-ils. « Il faut faire aussi la pénitence et ne pas se laisser déchirer le corps par une vaine obstination. »« Donc, vous voulez couvrir de honte notre maison ?» répondit la jeune fille. « Et mourir avec ignominie ? Ah, vous êtes dans une grande erreur. Mais, puisque vous le voulez, qu'il en soit ainsi. » Et, s'étant tournée vers les sbires, « Détachez-moi, » leur dit-elle, « et qu'on me lise l'interrogatoire de ma mère. J'approuverai ce qui doit être approuvé et je nierai ce qui doit être nié. » Ainsi fut fait. Elle avoua tout ce qui était vrai. Aussitôt, on ôta les chaînes à tous, et parce qu'il y avait 5 mois qu'elle n'avait vu ses frères, elle voulut dîner avec eux, et ils passèrent tous 4 une journée fort gaie. Mais le jour suivant, ils furent séparés de nouveau. Les deux frères furent conduits à la prison de Tordinona, et les femmes restèrent à la prison Savella. Notre Saint-Père le Pape, ayant vu l'acte authentique contenant les aveux de tous, ordonna que, sans délai, ils fussent attachés à la queue de chevaux indomptés et ainsi mis à mort. Homme entière frémit en apprenant cette décision rigoureuse. Un grand nombre de cardinaux et de princes allèrent se mettre à genoux devant le pape, le suppliant de permettre à ces malheureux de présenter leur défense. Et eux, ont-ils donné à leur vieux père le temps de présenter la sienne ? Répondit le pape indigné. Enfin, par grâce spéciale, il voulut bien accorder un sursis de 25 jours. Aussitôt, les premiers avocats se mirent à écrire dans cette cause qui avait rempli la ville de troubles et de pitié. Le 25e jour, Ils parurent tous ensemble devant sa sainteté. Niccolò de Angalis parla le premier, mais il avait à peine lu deux lignes de sa défense que Clément VIII l'interrompit. « Donc dans Rome, s'écria-t-il, on trouve des hommes qui tuent leur père et ensuite des avocats pour défendre ces hommes. » Tous restaient muets lorsque Farinacci osa élever la voix. « Très Saint-Père, dit-il, nous ne sommes pas ici pour défendre le crime, mais pour prouver, si nous le pouvons, qu'un ou plusieurs de ces malheureux sont innocents du crime. » Le pape lui fit signe de parler, et il parla trois grandes heures, après quoi le pape prit leurs écritures à tous et les renvoya. Comme il s'en allait, l'Altieri marchait le dernier. Il eut peur de s'être compromis et alla se mettre à genoux devant le pape en disant « Oh, je ne pouvais pas faire moins que de paraître dans cette cause, étant avocat des pauvres. » À quoi le pape répondit « Ne nous étonnons pas de vous, mais des autres. » Le pape ne voulut point se mettre au lit, mais passa toute la nuit à lire les plaidoyers des avocats, se faisant aider en ce travail par le cardinal de Saint-Marcel. Sa sainteté parut tellement touchée que plusieurs conçurent quelque espoir pour la vie de ces malheureux. Afin de sauver les fils, les avocats rejetaient tout le crime sur Béatrix, comme il était prouvé dans le procès que plusieurs fois son père avait employé la force dans un dessein criminel, les avocats espéraient que le meurtre lui serait pardonné à elle, comme se trouvant dans le cas de légitime défense, et s'il en était ainsi, l'auteur principal du crime obtenant la vie, comment ses frères, qui avaient été séduits par elle, pouvaient-ils être punis de mort? Après cette nuit donnée à ses devoirs de juge, Clément VIII ordonna que les accusés fussent reconduits en prison et mis au secret. Cette circonstance donna de grandes espérances à Rome, qui dans toute cette cause ne voyait que Béatrix. Il était avéré qu'elle avait aimé Monseigneur Guerra, mais n'avait jamais transgressé les règles de la vertu la plus sévère. On ne pouvait donc, en véritable justice, lui imputer les crimes d'un monstre, et on la punirait parce qu'elle avait usé du droit de se défendre. Qu'eût-on fait si elle eût consenti? Fallait-il que la justice humaine vint augmenter l'infortune d'une créature si aimable, si digne de pitié et déjà si malheureuse? Après une vie si triste qui avait accumulé sur elle tous les gens de malheur avant qu'elle eût 16 ans, n'avait-elle pas droit enfin à quelques jours moins affreux? Chacun dans Rome semblait chargé de sa défense. N'eût-elle pas été pardonnée si, la première fois que François Cenci tenta le crime, elle l'eût poignardé? Le pape Clément VIII était doux et miséricordieux. Nous commencions à espérer qu'un peu honteux de la boutade qui lui avait fait interrompre le plaidoyer des avocats, il pardonnerait à qui avait repoussé la force par la force, non pas à la vérité au moment du premier crime, mais lorsqu'on tentait de le commettre de nouveau. Rome tout entière était dans l'anxiété. Lorsque le pape reçut la nouvelle de la mort violente de la marquise Constance Santa Croce, son fils, Paul Santa Croce, venait de tuer à coups de poignard cette dame âgée de 60 ans, parce qu'elle ne voulait pas s'engager à le laisser héritier de tous ses biens. Le rapport ajoutait que Santa Croce avait pris la fuite et que l'on pouvait conserver l'espoir de l'arrêter. Le pape se rappela le fratricide des Massini, commis peu de temps auparavant. Désolé de la fréquence de ces assassinats commis sur de proches parents, sa sainteté ne crut pas qu'il lui fût permis de pardonner. En recevant ce fatal rapport sur Santa Croce, Le pape se trouvait au palais Montecavallo, où il était le 6 septembre, pour être plus voisin, la matinée suivante, de l'église de Sainte-Marie-des-Anges, où il devait consacrer comme évêque un cardinal allemand. Le vendredi, à 22 h, il fit appeler Ferrante Taverna, gouverneur de Rome, et lui dit ses propres paroles. « Nous vous remettons l'affaire des Cenci, afin que justice soit faite par vos soins et sans nul délai. » Le gouverneur revint à son palais, fort touché de l'ordre qu'il venait de recevoir. Il expédia aussitôt la sentence de mort et rassembla une congrégation pour délibérer sur le mode d'exécution. Samedi matin, 11 septembre 1599, les premiers seigneurs de Rome, membres de la confrérie des Confortatori, se rendirent aux deux prisons, à Cortesavella, où étaient Béatrice et sa belle-mère, et à Tordinona, où se trouvaient Jacques et Bernard Cenci. Pendant toute la nuit, du vendredi au samedi, les seigneurs romains, qui avaient su ce qui se passait, ne firent autre chose que de courir du palais de Montecarlo à ceux des principaux cardinaux, afin d'obtenir au moins que les femmes fussent mises à mort dans l'intérieur de la prison et non sur un infâme échafaud, et que l'on fît grâce au jeune Bernard Cenci, qui, à peine âgé de 15 ans, n'avait pu être admis à aucune confidence. Le noble cardinal Sforza s'est surtout distingué par son zèle dans le cours de cette nuit fatale. Mais, quoique prince si puissant, il n'a pu rien obtenir. Le crime de Santa Croce était un crime vil, commis pour l'avoir de l'argent, mais le crime de Béatrix fut commis pour sauver l'honneur. Pendant que les cardinaux des plus puissants faisaient tant de pas inutiles, Farinacci, notre grand jurisconsulte, a bien eu l'audace de pénétrer jusqu'au pape, mais arrivé devant sa sainteté, cet homme étonnant a eu l'adresse d'intéresser sa conscience, et enfin, il a arraché à force d'importunité la vie de Bernard Cenci. Lorsque le pape prononça ce grand mot, il pouvait être 4 heures du matin. Toute la nuit, on avait travaillé sur la place du Pont-Saint-Ange aux préparatifs de cette cruelle tragédie. Cependant, toutes les copies nécessaires de la sentence de mort ne purent être terminées qu'à 5 heures du matin, de façon que ce ne fut qu'à 6 heures du matin que l'on put aller annoncer la fatale nouvelle à ces pauvres malheureux qui dormaient tranquillement. La jeune fille, dans les premiers moments, ne pouvait même trouver de force pour s'habiller. Elle jetait des cris perçants et continuels et se livrait sans retenue au plus affreux désespoir. « Comment est-ce possible, ah Dieu ! » s'écriait-elle, « qu'ainsi, à l'improviste, je dois mourir ?» Lucrèce Petroni, au contraire, ne dit rien que de fort convenable. D'abord, elle pria à genoux, puis exhorta tranquillement sa fille à venir avec elle à la chapelle, où elles devaient toutes deux se préparer à ce grand passage de la vie à la mort. Ce mot rendit toute sa tranquillité à Béatrix. Autant elle avait montré d'extravagance et d'emportement d'abord, autant elle fut sage et raisonnable, dès que sa belle-mère eut rappelé cette grande âme à elle-même. Dès ce moment, elle a été un miroir de constance que Rome entière a admiré. Elle a demandé un notaire pour faire son testament, ce qui lui a été accordé. Elle a prescrit que son corps fût à Saint-Pierre l'Inmontorio. Elle a laissé 300 000 francs au stimate. Cette somme doit servir à doter 50 pauvres filles. Cet exemple a ému la signora Lucrèce, qui elle aussi a fait son testament et ordonnait que son corps fût porté à Saint-Georges. Elle a laissé 500 000 francs d'aumône à cette église et fait d'autres laits pieux. À 8 heures, elles se confessèrent, entendirent la messe et reçurent la Sainte Communion. Mais, avant d'aller à la messe, la signora Béatrice considéra qu'il n'était pas convenable de paraître sur l'échafaud aux yeux de tout le peuple avec les riches habillements qu'elle portait. Elle ordonna 2 robes, l'une pour elle, l'autre pour sa mère. Ces robes furent faites comme celles des religieuses, sans ornements à la poitrine et aux épaules, et seulement plissées avec des manches larges. La robe de la belle-mère fut de toile de coton noir, celle de la jeune fille de taffetas bleu, avec une grosse corde qui ceignait la ceinture. Lorsqu'on apporta les robes, la signora Béatrix, qui était à genoux, se leva et dit à la signora Lucrèce « Madame ma mère, l'heure de notre passion approche. Il sera bien que nous nous préparions, que nous prenions ces autres habits et que nous nous rendions pour la dernière fois le service réciproque de nous habiller. » On avait dressé sur la place du pont Saint-Ange un grand échafaud avec un cep et une manaja, sorte de guillotine. Sur les 13 heures, la compagnie de la Miséricorde apporta son grand crucifix à la porte de la prison. Giacomo Cenci sortit le premier de la prison. Il se mit à genoux, dévotement, sur le seuil de la porte, fit sa prière et baisa les saintes plaies du crucifix. Il était suivi de Bernard Cenci, son jeune frère, qui lui aussi avait les mains liées et une petite planche devant les yeux. La foule était énorme. Et il y eut du tumulte à cause d'un vase qui tomba d'une fenêtre presque sur la tête d'un des pénitents qui tenait une torche allumée à côté de la bannière. Tous regardaient les deux frères, lorsqu'à l'improviste s'avança le fiscal de Rome qui dit « Signor Bernardo, notre Seigneur vous fait grâce de la vie. Soumettez-vous à accompagner vos parents et priez Dieu pour eux. » À l'instant, ces 2 confortatari lui ôtèrent la petite planche qui était devant ses yeux. Le bourreau arrangeait sur la charrette Giacomo Cenci et lui avait ôté son habit afin de pouvoir le tenailler. Quand le bourreau vint à Bernard, il vérifia la signature de la grâce, le délia, lui ôta les menottes, et, comme il était sans habit, devant être tenaillé, le bourreau le mit sur la charrette et l'enveloppa du riche manteau de drap galonné d'or. On a dit que c'était le même qui fut donné par Béatrix à Marzio après l'action dans la forteresse de Petrella. La foule immense qui était dans la rue, aux fenêtres et sur les toits, s'émut tout à coup. On entendait un bruit sourd et profond. On commençait à se dire que cet enfant avait sa grâce. Le chant des psaumes commencèrent et la procession s'achemina lentement par la place Navone vers la prison Savella. Arrivée à la porte de la prison, la bannière s'arrêta, les 2 femmes sortirent, firent leur adoration au pied du Saint Crucifix et ensuite s'acheminèrent à pied l'une à la suite de l'autre. Elles étaient vêtues, ainsi qu'il a été dit, la tête couverte d'un grand voile de taffetas qui arrivait presque jusqu'à la ceinture. La signora Lucrèce, en sa qualité de veuve, portait un voile noir et des mules de velours noir sans talons, selon l'usage. Le voile de la jeune fille était de taffetas bleu, comme sa robe. Elle avait de plus un grand voile de drap d'argent sur les épaules, une jupe de drap violet et des mules de velours blanc, lacées avec élégance et retenues par des cordons cramoisis. Elle avait une grâce singulière en marchant dans ce costume, et les larmes venaient dans tous les yeux à mesure qu'on l'apercevait s'avançant lentement dans les derniers rangs de la procession. Les femmes avaient toutes les deux les mains libres, mais les bras liés au corps, de façon que chacune d'elles pouvait porter un crucifix. Elles le tenaient fort près des yeux. Les manches de leur robe étaient fort larges, de façon qu'on voyait leurs bras, qui étaient couverts d'une chemise serrée aux poignets, comme c'est l'usage en ce pays. La signora Lucrèce, qui avait le cœur moins ferme, pleurait presque continuellement. La jeune Béatrix, au contraire, montrait un grand courage, et tournant les yeux vers chacune des églises devant lesquelles la procession passait, se mettait à genoux pour un instant et disait d'une voix ferme « Adoramus te, Christe ». Pendant ce temps, le pauvre Giacomo Cenci était tenaillé sur sa charrette et montrait beaucoup de constance. La procession put à peine traverser le bas de la place du Pont-Saint-Ange, tant était grand le nombre des carrosses et la foule du peuple. On conduisit sur le champ les femmes dans la chapelle qui avait été préparée, et on y amena ensuite Giacomo Cenci. Le jeune Bernard, recouvert de son manteau galonné, fut conduit directement sur l'échafaud. Alors, tous crurent qu'on allait le faire mourir et qu'il n'avait pas sa grâce. Ce pauvre enfant eut une telle peur qu'il tomba évanoui au second pas qu'il fit sur l'échafaud. On le fit revenir avec de l'eau fraîche et on le plaça vis-à-vis le mannaja. Le bourreau alla chercher la signora Lucrèce Petroni. Ses mains étaient liées derrière le dos, elle n'avait plus de voile sur les épaules. Elle parut sur la place, accompagnée par la bannière, la tête enveloppée dans le voile de taffetas noir. Là, elle fit sa réconciliation avec Dieu et elle baisa les saintes plaies. On lui dit de laisser ses mules sur le pavé. Comme elle était fort grosse, elle eut quelque peine à monter. Quand elle fut sur l'échafaud et qu'on lui ôta le voile de taffetas noir, elle souffrit beaucoup d'être vue avec les épaules et la poitrine découvertes. Elle se regarda, puis regarda la manaja et, en signe de résignation, leva lentement les épaules. Les larmes lui vinrent aux yeux et elle dit « Oh mon Dieu, et vous, mes frères, priez pour mon âme. » Ne sachant ce qu'elle avait à faire, elle demanda à Alexandre, premier bourreau, comment elle devait se comporter. Il lui dit de se placer à cheval sur la planche du cep. Mais ce mouvement lui parut offensant pour la pudeur, et elle mit beaucoup de temps à le faire. Les détails qui suivent sont tolérables pour le public italien qui tient à savoir toutes choses avec la dernière exactitude. Qu'il suffise au lecteur français de savoir que la pudeur de cette pauvre femme fit qu'elle se blessa à la poitrine. Le bourreau montra la tête au peuple et ensuite l'enveloppa dans le voile de taffetas noir. Pendant qu'on mettait en ordre la manacha pour la jeune fille, un échafaud chargé de curieux tomba et beaucoup de gens furent tués. Ils parurent ainsi devant Dieu avant Béatrix. Quand Béatrix vit la bannière revenir vers la chapelle pour la prendre, elle dit avec vivacité « Madame, ma mère est-elle bien morte ?» On lui répondit que oui. Elle se jeta à genoux devant le crucifix et pria avec ferveur pour son âme. Ensuite, elle parla haut et pendant longtemps au crucifix. « Seigneur, tu es retourné pour moi et moi je te suivrai de bonne volonté. ne désespérant pas de ta miséricorde pour mon énorme péché, etc. Elle récita ensuite plusieurs psaumes et oraisons, toujours à la louange de Dieu. Quand enfin le bourreau parut devant elle avec une corde, elle dit « Lis ce corps qui doit être châtié, délie cette âme qui doit arriver à l'immortalité et à une gloire éternelle. » Alors elle se leva, fit la prière, laissa ses mules au bas de l'escalier et, montée sur l'échafaud, elle passa lestement la jambe sur la planche, posa le cou sous la manaja et s'arrangea parfaitement bien elle-même pour éviter d'être touchée par le bourreau. Par la rapidité de ses mouvements, elle évita qu'au moment où son voile de taffetas lui fut ôté, le public aperçut ses épaules et sa poitrine. Le coup fut longtemps à être donné parce qu'il survint un embarras. Pendant ce temps, elle invoquait à haute voix le nom de Jésus-Christ et de la Très-Sainte Vierge. Le corps fit un grand mouvement au moment fatal. Le pauvre Bernard Cenci, qui était toujours resté assis sur l'échafaud, tomba de nouveau évanoui, et il fallut plus d'une grosse demi-heure à ses confortatori pour le ranimer. Alors parut sur l'échafaud Jacques Cenci, mais il faut encore passer sur des détails trop atroces. Jacques Cenci fut assommé. Sur le champ, on reconduisit Bernard en prison. Il avait une forte fièvre, on le saigna. Quant aux pauvres femmes, chacune fut accommodée dans sa bière et déposée à quelques pas de l'échafaud, auprès de la statue de Saint Paul, qui est la première à droite, sur le pont Saint-Ange. Elles restèrent là jusqu'à 4h15 après-midi. Autour de chaque bière brûlaient 4 cierges de cire blanche. Ensuite, avec ce qui restait de Jacques Cenci, elles furent portées au palais du consul de Florence. À 9h15 du soir, le corps de la jeune fille, recouvert de ses habits et couronné de fleurs avec profusion, fut portée à Saint-Pierre in Montorio. Elle était d'une ravissante beauté, on eût dit qu'elle dormait. Elle fut enterrée devant le grand autel et la transfiguration de Raphaël d'Urbino. Elle était accompagnée de 50 gros cierges allumés et de tous les religieux franciscains de Rome. Lucrèce Petroni fut portée à 10h du soir à l'église de Saint-Georges. Pendant cette tragédie, la foule fut innombrable. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, on voyait les rues remplies de carrosses et de peuples, les échafaudages, les fenêtres et les toits remplis de curieux. Le soleil était d'une telle ardeur ce jour-là que beaucoup de gens perdirent connaissance. Un nombre infini prit la fièvre, et lorsque tout fut terminé à 10h, et que la foule se dispersa, beaucoup de personnes furent étouffées, d'autres écrasées par les chevaux. Le nombre de morts fut très considérable. La signora Lucrèce Petroni était plutôt petite que grande, et quoique âgée de 50 ans, elle était encore fort bien. Elle avait de fort beaux traits, le nez petit, les yeux noirs, le visage très blanc avec de belles couleurs. Elle avait peu de cheveux et ils étaient châtains. Beatrice Cenci, qui inspirera des regrets éternels, avait justement 16 ans. Elle était petite, elle avait un joli embonpoint et des fossettes au milieu des joues, de façon que, morte et couronnée de fleurs, on eût dit qu'elle dormait, et même qu'elle riait, comme il lui arrivait fort souvent quand elle était en vie. Elle avait la bouche petite, les cheveux blonds et naturellement bouclés. En allant à la mort, ses cheveux blonds et bouclés lui retombaient sur les yeux, ce qui donnait une certaine grâce et portait à la compassion. Giacomo Cenci était de petite taille, gros, le visage blanc et la barbe noire. Il avait 26 ans à peu près quand il mourut. Bernard Cenci ressemblait tout à fait à sa sœur et, comme il portait les cheveux longs comme elle, beaucoup de gens, lorsqu'il parut sur l'échafaud, le prirent pour elle. Le soleil avait été si ardent que plusieurs des spectateurs de cette tragédie moururent dans la nuit, et parmi eux, Ubaldino Ubaldini, jeune homme d'une rare beauté et qui jouissait auparavant d'une parfaite santé. Il était frère du signor Renzi, si connu dans Rome. Ainsi, les ombres de Cenci s'en allèrent bien accompagnées. Hier, qui fut mardi 14 septembre 1599, les pénitents de San Marcello, à l'occasion de la fête de Sainte-Croix, usèrent de leurs privilèges pour délivrer de la prison le signor Bernard Cenci, qui s'est obligé de payer dans un an 400 000 francs à la très sainte Trinité du pont Sixte. Ajouté d'une autre main, c'est de lui que descendent François et Bernard Cenci qui vivent aujourd'hui. Le célèbre Farinacci, qui par son obstination sauva la vie du jeune Cenci, a publié ses plaidoyers. Il donne seulement un extrait du plaidoyer numéro 66 qu'il prononça devant Clément VIII en faveur des Cenci. Ce plaidoyer en langue latine formerait 6 grandes pages et je ne puis le placer ici, ce dont j'ai le regret. Il peint les façons de penser de 1599. Il me semble fort raisonnable. Bien des années après 1599, Farinacci, en envoyant ses plaidoyers à l'impression, ajouta une note à celui qu'il avait prononcé en faveur des Cenci. Omnes fuerunt ultimo supplicio effecti, excepto Bernardo qui ad triremes, cum bonorum confiscatione condemnatus fuit, ac etiam ad interessendum aliorum morti prout interfuit. La fin de cette note latine est touchante, mais je suppose que le lecteur est las d'une si longue histoire.